France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore what you
do. Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que fait-il à nous regarder ainsi les bras ballants, planté comme un piquet, si grand, si blanc, si vague? On nous dit que c'est un comédien et qu'il faut l'appeler Gilles, ou plutôt Pierrot. On nous dit que Watteau l'a peint peut-être en 1719, mais il ne joue pas de comédien, ou plus, ou pas encore, ou peut-être qu'il joue à ne pas jouer. Qui nous parle alors de comédie ou de galanterie? Apparemment, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Mais alors, que font ces mauvais plaisants qui, en contrebas de ce grand dadais, semblent ourdir un mauvais coup, et de qui se moquent-ils? Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant, écrivait Baudelaire, comme lui, décidément, on n'y comprend rien. Alors on y a été voir, pourtant, ou plutôt revoir, puisque c'est ainsi que s'intitule l'exposition qui se tient au Louvre jusqu'au 3 février 2025, Revoir Watteau. Restauré, le tableau a retrouvé la suavité de ses couleurs qui font contraste avec l'éclatante blancheur de son mystère. Pierrot se tient devant nous et réussit l'exploit d'occuper tout l'espace en restant absent à lui-même. Et si le théâtre de notre modernité se jouait là, dans le trouble insondable de cette énigme? On en parle avec Charlotte Guichard et Suzanne Rochefort, bientôt rejointes par la sociétaire du jour, Éléonore Chaline. Charlotte Guichard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, professeure à l'École normale supérieure, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous publiez à la rentrée avec Sophie Crasse, qu'on a reçue il y a quelques semaines, 4 je crois, « Vendre son art ». Et sur Watteau, vous avez publié en 2022 un livre « Watteau colonial », c'est en allemand parce que vous occupiez alors la chaire Panofsky de Munich, qui replace le peintre au grand air de l'expansion coloniale. Vous dites que c'est là un tableau qui ne vous laisse pas tranquille.
Non, la fête galante de Watteau est un tableau qui, comme celui dont nous allons parler aujourd'hui d'ailleurs, qui nous laisse intranquilles, qui ouvre des questions et qui laisse percevoir un trouble dans l'espace pictural.
Et ce trouble, il est aussi peut-être théâtral. Bonjour Suzanne Rochefort.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Lorraine et le livre tiré de votre thèse est sorti cette année chez Champvallon. Son titre, Vie théâtrale, c'est un beau titre, Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris entre lumière et révolution. Vous y voyez une vie théâtrale dans ce Pierrot qui est finalement planté là?
Ah oui, tout à fait, parce que finalement, c'est un tableau énigmatique, mais en fait très réaliste au niveau des concurrences en fait entre théâtres au XVIIIe siècle, et donc c'est toute une énigme à décrypter.
Voilà. Mais alors avant de la décrypter, on va essayer de décrire. Hein. Vous connaissez le principe de cette émission. On cherche à décrire ce qu'on a sous les yeux en tentant de retenir le jeu des interprétations. Mais cette fois-ci, on va innover. Tiens, on va écouter Françoise Petrovitch au micro de France Culture en 2020. C'est une artiste peintre dont les tableaux qui sont souvent de grandes dimensions, représentent des enfants, des adolescents, et qui dit d'ailleurs de ses toiles « un grand format peut être plus intime encore qu'un petit dessin ». Écoutez-la.
J'ai été saisie une fois de plus par cette grande peinture qu'on appelle Pierrot ou le Gilles, et j'ai ressenti devant cette toile, finalement devant ce personnage tout seul, un sentiment qui est exactement le sentiment d'incertitude et de vide que j'ai l'impression qu'on ressent en ce moment, c'est-à-dire une espèce d'immobilité pesante. Il y avait cette grande figure centrale. Il a les bras comme ça qui sont ballants. Il est engoncé dans un habit nacré. Il irradie. Et en même temps, il a un regard complètement perdu. Il il semble, quand on le regarde, moi j'ai eu l'impression qu'il semblait chercher une réponse dans les yeux du spectateur qu'on a absolument évidemment pas. Et il y avait aussi, je sais pas si vous voyez le tableau, il y a quatre personnages, hein, voilà, de la comédie d'alerte et qui sont en bas, tout à fait en bas, un peu en contre-plongée. Et eux, ils semblent pas être dans le même monde. C'est-à-dire, ils ont l'impression que tout continue. C'est des gens qui ne voient pas, qui s'agitent. Et leur comédie continue. C'est-à-dire, comme, j'ai fait le parallèle avec les personnes qui aujourd'hui, ou les politiques, je sais pas, qui aujourd'hui foncent dans le mur et veulent absolument retrouver le monde d'avant. Cette espèce de comédie qu'on se joue et de vitesse. Et lui, il est là, il est devant, il est lumineux. C'est un personnage qui est obscur aussi, hein. C'est ça qui m'a touchée, évidemment.
Un personnage obscur, alors qu'il est effectivement éclaboussé de blanc et d'une blancheur qui a retrouvé tout son éclat depuis la restauration du tableau par le C2AMF en 2024. Et on peut peut-être commencer par le décrire comme ça, Charlotte Guichard, dans sa matérialité. C'est un très grand tableau, d'abord.
Oui, en effet, la restauration que le CDERMF a entreprise a permis de retrouver les couleurs originelles, je dirais. Et c'est vrai que la blancheur qui se dégage de ce tableau est remarquable. Il y a une valeur plastique à ce blanc-là qui détonne et qui laisse, puisque vous parliez de matérialité, qui donne à voir la diversité aussi des textiles, du costume, hein, de Pierrot.
Du coton.
Du coton, peut-être. On peut pas vraiment savoir. Ouais. En réalité, hein, mais la veste a un blanc plus mat, tandis que le pantalon est plus satiné. Donc il y a aussi un jeu sur ces tissus-là qui sont rendus à toute leur matérialité et qui donnent à voir, hein, la virtuosité technique, oui, du geste de Watteau. Une virtuosité qui renvoie d'ailleurs à un geste pictural, hein, qui est le sien, dans cette capacité à peindre le vêtement, la draperie.
On le voit mieux d'ailleurs, le geste, également dans le fond, hein, maintenant que le tableau a été restauré.
Tout à fait, le ciel bleu, car Pierrot se dégage sur un ciel bleu, hein, le ciel bleu donc a retrouvé ses couleurs d'origine, et on voit également mieux le paysage qui se dégage sur la droite avec ses pins vaporeux qui donnent au tableau aussi une forme de rêverie indéfinissable.
Tout ça c'est éclairé et tout ça c'est aussi agrandi de 6 cm, puisque au cours d'un rentoilage du XVIIIe siècle, les bords de la toile avaient été repliés sur le châssis, donc il fait maintenant 1,84 m sur 1,55 m. C'est assez inhabituel pour Watteau, qui est plutôt un adepte des petits formats, non ?
Tout est inhabituel dans ce tableau. Si on pense à Watteau, Watteau peignait de petits tableaux. Il les peignait souvent rapidement. C'est un peintre qui, comme je le disais, virtuose. Il dessine d'après nature. Il a des albums de dessins qui témoignent de la rapidité du geste. Ses tableaux sont souvent peu préparés. Celui-là l'est. La carnation des visages est souvent rapidement peinte. Ici, lorsqu'on s'approche du tableau, alors ce sont des Pierrot et grandeur nature. Hein, ouais. Il se dresse devant nous. Hein, c'est une apparition. Hein, véritablement, on voit une peau, une carnation extrêmement travaillée, extrêmement subtile. Donc oui, tout est étonnant dans ce tableau. Était-ce seulement un tableau ? C'est une des questions qui reste entière. On a pu parler.
On a dit que c'était une enseigne, par exemple. Alors vous connaissez très bien l'enseigne de Gersin. Hein, vous l'avez longuement analysé dans votre premier livre en 2008, Les amateurs à Paris au XVIIIe siècle. Ça a la dimension de l'enseigne, peut-être pas la fonction.
Ça a la dimension d'une enseigne, d'une toile peinte qu'on pouvait voir exposée à la foire Saint-Germain. Mais en réalité, on pense qu'il y avait déjà un châssis, donc c'est pas tout à fait non plus une toile peinte suspendue. Il est peu probable que, vu le soin apporté extraordinaire à ce tableau, c'était pas non plus une enseigne, puisque bon, les enseignes avaient un soin moindre. Donc voilà, la question de la valeur d'usage de cet objet pictural incroyable reste énigmatique, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que on a quand même toute une série d'indices sur la datation et le monde dans lequel il a été peint.
Donc Watteau, à ce moment-là, il est né à Valenciennes, il est passionné par le théâtre, on va y revenir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette datation qui est incertaine, hein, tout d'une certaine manière hypothétique dans cette affaire ?
Oui, alors on pense que le tableau aurait été peint dans les années 1710, plutôt à la fin des années 1710. Il faut savoir que Watteau meurt en 1721, donc voilà, on a aussi là une date limite. Watteau, c'est vraiment un peintre qui peint au moment de la Régence, cette période si particulière de la France après la mort de Louis XIV en 1715, qui traverse un moment incroyable qui est celle de la bulle spéculative, de l'expansion coloniale. On en a déjà dit un mot. Et donc un moment où les élites sont transformées, où les divertissements sont transformés, où l'enrichissement des élites parisiennes est tout à fait nouveau. Et vous parliez de l'enseigne de Gersin. Watteau va peindre de manière incroyablement lucide cet enrichissement des élites, ce premier capitalisme commercial. Donc si ce tableau dont on parle aujourd'hui doit être certainement replacé dans le monde du théâtre, il doit aussi l'être dans ce monde plus large, dans ce contexte plus large, qui est celui d'une transformation en fait de la monarchie. Et pour moi, Watteau est sans doute, si c'est ce peintre de la modernité, voilà, qui arrive au monde après la querelle des anciens et des modernes, il est ce peintre de la modernité, c'est parce qu'il aura su peindre, dans toutes les manières possibles, ces transformations de la France.
Pierrot, dit le Gille de Watteau, un comédien sans réplique, c'est le titre du catalogue qui est en fait une monographie de Guillaume Farou qui paraît à l'occasion de cette exposition. Et là, on a besoin de vos lumières, Suzanne Rochefort, parce qu'effectivement, c'est un comédien, ça fait pas de doute. On l'a appelé le Gille parce que le Gille procède du Pierrot, mais à ce moment-là, c'est bien la figure du Pierrot. Restons sur Pierrot, puis ensuite on verra les autres farceurs qui sont à ses pieds.
Oui, alors Pierrot, c'est un personnage qui est tout à fait fascinant car il est hybride, c'est-à-dire qu'il est créé en fait par la troupe italienne officielle de Paris dans les années 1770. Mais c'est un personnage qui n'est pas italien, qui n'est pas du tout importé d'Italie, mais au contraire, qui est créé pour le public parisien, qui est à la base passionné par tous les personnages de Valais, comme Arlequin, par exemple. Et donc, c'est vraiment dans le contexte de cette commedia dell'arte que naît le personnage de Pierrot dans les années 1670, avec sa caractéristique première dont on vient de parler, qui est la blancheur de son vêtement, et ce côté un petit peu de Valais balourd, niais, engoncé dans son vêtement blanc. Et donc ça, c'est vraiment la caractéristique qu'il a dès le départ, mais à la base, dans les années 1670, ça reste un personnage qui est secondaire et pas du tout au premier plan, comme ça le devient dans le tableau ensuite.
Et Watteau, lui-même, s'est peint dans son autoportrait en comédien, ce qui est quand même assez inhabituel parce que d'une certaine manière, c'est ce que vous montrez, Suzanne Rochefort, la condition du comédien quand même au début du XVIIIe siècle, elle est très problématique,
elle n'est pas propre à
valoriser l'artiste.
Ah oui, complètement, c'est vraiment une singularité là de Watteau qu'on peut relier à sa biographie, puisqu'il avait commencé en arrivant à Paris par être assistant décorateur à l'opéra et à peindre des décors d'opéra. Donc c'est quelqu'un qui est fasciné par les spectacles, qui a peint beaucoup sur le théâtre, et c'est aussi pour ça peut-être qu'il est fasciné par ce personnage de Pierrot, qui devient par la suite un personnage non plus de la troupe italienne, mais un personnage de la foire, qui est repris justement par les forains dans les années 1700 et 1710, et qui fascine le public des foires parisiennes.
Alors évidemment, en vous entendant, Suzanne Rochefort et Charlotte Guichard, on pense peut-être aux Enfants du Paradis de Jacques Prévert et Marcel Carnet, où l'action là est censée se dérouler dans les théâtres de Boulevard du Crime des années 1820, mais dans une scène célèbre, on va l'écouter, puis ça nous permettra de rebondir sur d'autres éléments de description. Dans une scène célèbre, le père de Baptiste de Bureau, qui est joué par Jean-Louis Barrault, harangue le public pour qu'il s'approche des tréteaux où se produit la troupe des funambules.
Entrez, entrez et venez voir les dangers de la forêt vierge, où le crime et la vertu, grande pantomime féerique, exotique et pyrotechnique. Et vous me verrez moi-même, le seul, unique, l'incomparable Anselme de Bureau. Anselme de Bureau, qui a joué la pantomime dans le harem du grand turc en sa propre présence et devant ses 82 turqueresses. Mais celui que vous ne verrez pas à l'intérieur, rassurez-vous, c'est celui-là. Parce que celui-là ne sait rien faire. C'est un attardé. Un rêve tout beau. Même quand il est assis. Un invraisemblable niais. Un lamentable ahuri. Un incompréhensible bon à rien. Et celui-là, hélas,
c'est mon fils.
Alors, on l'a dit, il prend tout l'espace, l'invraisemblable niais, mais derrière, ou plus exactement à ses pieds, il y a d'autres comédiens, d'autres personnages. Comment on pourrait les identifier? Il y en a un qu'il est facile d'identifier, c'est le premier à gauche, hein, c'est ça, Suzanne Rochefort.
Oui, tout à fait. C'est le personnage donc de Crispin, qui n'appartient pas du tout à l'univers italien ni à l'univers forain, mais au contraire à l'univers de la comédie française, théâtre officiel, pensionné par le roi, qui a le monopole justement sur les grandes pièces comiques et tragiques. Et Crispin est le valet comique principal de la comédie française. Et au contraire de Pierrot, c'est un valet qui est débrouillard, rusé, mais aussi très sarcastique et railleur.
C'est pour ça qu'il est avec son âne.
Oui, tout à fait. Là aussi, symbole de la comédie de manière générale. Et c'est un caractère, le caractère de Crispin, qui fascinait certainement Watteau, qui avait cet humour aussi un petit peu corrosif. Et donc là, on a vraiment deux personnages, Crispin et Pierrot, qui n'ont jamais pu coexister sur la même scène, puisque ce sont deux univers complètement différents, mais pourtant que Watteau réunit pour... certainement, à mon avis, hein, d'après ce qui a été dit, faire allusion au contexte de la guerre des théâtres entre la comédie française et la foire qui se déroule dans les années 1700 et surtout dans la décennie 1710.
Oui, alors ça, on va en parler, mais alors juste si on continue à décrire Charlotte Guichard, il n'y a pas que Crispin, il y a aussi deux personnages de la comédie, peut-être des amoureux, il y a un fou qui a une coiffe de folie douce, peut-être Momus, il y a un satyre, qu'est-ce que vous voyez au pied du Pierrot?
Oui, alors c'est vrai que en fait, il y a une vraie incertitude finalement sur ce que représente Watteau. C'est vrai que si Crispin fait l'unanimité aujourd'hui, les trois personnages à droite restent assez mystérieux. Peut-être Momus, oui, la folie avec cette coiffure à crête, deux amoureux avec ce jeune couple, donc la jeune femme de profil et l'homme de dos, une spécialité hein, de Watteau, les figures de dos dans cette peinture rouge. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie incertitude, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un mouvement, il regarde quelque chose, il y a un dynamisme qui contraste véritablement avec l'immobilité du Pierrot central qui attire le regard. Autre figure centrale et complètement latérale pour le coup, c'est cette sculpture avec un visage de satyre sur la droite du tableau. C'est un terme, c'est-à-dire que c'est une sculpture qui dans l'Antiquité servait à manifester les limites, les frontières. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes, elle ne peut pas bouger. C'est une figure dont Watteau est friand. Hein. Il y a un terme dans l'embarquement pour Cythère, mais il a pour buste la déesse Aphrodite. Là, c'est un satyre et ce satyre un peu dangereux fait écho pour moi, enfin, à la figure de Crispin, hein, il y a là une dangerosité qui vient contraster quand même avec l'apparence évidence, le calme peut-être de la partie supérieure du tableau.
C'est ça.
Et qui induit une forme d'inquiétude,
et voilà.
Celle dont vous parliez en ouvrant en fait la discussion.
Alors où est le danger? Où est le danger justement, Suzanne Rochefort? Parce qu'on a bien envie, évidemment, aussi parce que l'identification est incertaine, de le ramener à l'histoire du théâtre.
Oui.
L'histoire du théâtre
oui.
Que vous connaissez si bien. Donc il y a ce moment, 1697, où Louis XIV donc, exclut la comédie italienne. Donc les Italiens se retournent d'une certaine manière dans le théâtre de foire. Et à ce moment-là, cette opposition entre les Italiens et la comédie française, on a quand même très envie de la voir ici dramatisée.
Oui, complètement. En fait, cette inquiétude, c'est une inquiétude qui est tout à fait réelle dans le paysage des spectacles à l'époque, puisque la comédie française est tout à fait jalouse du succès des spectacles de foire et donc intente un certain nombre de procès contre la foire, avec des amendes, mais également avec des tentatives de fermer leur spectacle et une tentative de faire taire le Pierrot, en quelque sorte, avec des commissaires de police qui viennent dans les spectacles de foire pour vérifier si ça certaines interdictions sont bien respectées. Par exemple, interdiction d'avoir plus de 3 personnages sur scène ou plus de 2 personnages sur scène, voire interdiction de faire 2 dialogues. Donc sur la foire, on a par exemple Pierrot ou d'autres personnages, hein, mais qui ne peuvent pas dire leur texte, mais qui ont leur texte écrit sur un écriteau. Et c'est le public.
C'est une ruse.
Qui doit... c'est complètement une ruse parce que c'est fait pour attirer les spectateurs et c'est une créativité qui naît de la contrainte, justement, précisément. Et donc ce personnage de Pierrot, qui est devenu un personnage complètement central de premier plan à la foire, est tout le temps menacé par les procès de la Comédie française, procès qui arrivent justement à leur paroxysme en 1719, quand la Comédie française obtient la suppression de presque tous les spectacles de foire, sauf les marionnettes. Et donc en 1719, Pierrot est réduit de manière réelle et juridique au silence.
Et c'est pour ça qu'on dit 1719,
c'est,
au fond.
Voilà,
parce que c'est une sorte
exactement.
De pantin. Voilà, qui
exactement.
N'est plus que...
ça, c'est une datation qui ferait sens par rapport justement à ce contexte-là.
Donc pour vous, comme historienne du théâtre, comme historienne des comédiens, vous y voyez tout de même dans cette inquiétude. Alors c'est plus que ça, cette inquiétude. On va y revenir. C'est aussi, elle est d'une certaine manière constitutive de notre modernité, mais quand même un contexte très particulier qui parle de la scène parisienne en 1719.
Oui, complètement, avec cette dimension de raillerie et cette dimension subversive, puisque Watteau, dans ce tableau-là, mais aussi dans d'autres, a plutôt justement un regard ironique sur les monopoles de la Comédie française et sur cette jalousie aussi qu'a la Comédie française par rapport au théâtre de foire.
La chanson de Pierrot de Debussy, on parlait de la Régence. D'une certaine manière, on est en plein avec le Pierrot de Watteau dans cette période. C'est tout un siècle en 8 ans, écrivait Michelet, qui ajoutait « on y voit la création de 1000 choses ». Et d'une certaine manière, Charlotte Guichard, il y a là, vous avez étudié l'aspect colonial, en fait, de la carrière de Watteau, qui lui-même était lié à l'expansion maritime, aux compagnies de commerce, au Mississippi, et c'est les fêtes galantes plutôt. Mais là aussi, il y a du point de vue, je dirais, du vacillement de l'identité, de cette période extravagante, au fond, à la fois de création et d'inquiétude, quelque chose qui appelle notre commentaire.
Oui, pendant la Régence, en fait, cette question des identités sociales qui devient particulièrement aiguë. Pourquoi ? Parce qu'il y a, on sort d'un moment politique où les identités étaient largement organiques, elles étaient réifiées, déterminées par un cadre juridique. Avec l'enrichissement des élites, cette mobilité sociale nouvelle, il y a une forme de fluidité dans les identités. Et c'est ce que aussi le théâtre de Marivaux, oui. Très proche de la Comédie italienne, décrit très bien. Des esclaves qui peuvent devenir maîtres. Et donc une forme d'inquiétude aussi sur les identités. Et il me semble que le tableau là sur le Pierrot de Watteau finalement pose cette question-là, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment Pierrot, est-ce que c'est Gilles, est-ce qu'on est devant Momus ou pas, est-ce qu'on est devant Crispin ou pas. Il y a cette question plus générale sur la valeur des identités et on ne peut pas trancher. Finalement,
c'est un masque aussi. C'est un masque.
C'est un masque. Et alors, revenons à la matérialité, puisque c'est un des grands enseignements de cette restauration du C2RMF. Le costume que porte Pierrot, c'est du blanc de céruse, du blanc de plomb. C'est-à-dire que c'est ce pigment qu'utilise le peintre, est aussi un fard qu'utilisaient les élites pour se blanchir. Donc le costume lui-même est un fard, est un maquillage. Et donc, que regarde-t-on? Est-ce qu'on regarde Watteau? Est-ce qu'on regarde Watteau au sens où c'est un autoportrait? On ne sait pas. Est-ce qu'on regarde Gilles? On regarde Pierrot? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est une question aussi sur la valeur sociale. Est-elle intrinsèque ou pas? Comment s'accorder sur les apparences?
Et là, c'est pas simplement, Suzanne Rochefort, la condition des comédiennes et des comédiens dont vous êtes l'historienne. Mais c'est le théâtre du XVIIIe siècle qui fait vaciller ses identités avec évidemment allégresse et joie chez Marivaux, mais là on en voit d'une certaine manière la part inquiète.
Oui, oui, complètement. On est bien dans un statut social extrêmement ambivalent, avec à la fois sur un plan religieux une excommunication théoriquement auquel ils sont soumis, et en même temps, ce sont bien des personnes de plus en plus célèbres, reconnues également pour leur art. Donc il y a évidemment une ambivalence très très forte. Et là, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit justement sur le blanc, c'est justement en raison de ce costume blanc que Pierrot a pu être confondu avec le Gilles, qui préexiste en fait au Pierrot, mais qui était ce valet niais et balourd qui se promenait sur le tréteau de la foire depuis le début du XVIIe siècle.
Et pourtant, donc, du point de vue des personnages théâtraux, quand la comédie italienne va redevenir officielle, elle va beaucoup réhabiliter le Pierrot, et qui va être associé à la gaieté, à l'amour, en binôme avec Colombine, mais d'une certaine manière, il faut faire l'effort Suzanne Rochefort, pour comprendre que ce qu'on voit là, c'est antérieur à cet enchantement théâtral.
Oui, exactement, c'est antérieur parce que on peut voir le Pierrot effectivement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puis après on en reparlera sur la scène officielle de la comédie italienne, mais au moment même du tableau, Pierrot représente cette part subversive des spectacles au XVIIIe siècle, et cette part de raillerie aussi face aux monopoles artistiques qui ont été mis en place, et aussi raillerie face du coup à la politique culturelle mise en place par Louis XIV, puis qui reste aussi présente sous la Régence. Donc on a vraiment cette dimension subversive-là.
Alors je ne sais pas si vous connaissez la série de vidéos de Fabrice Maruca, Amusez-vous, Amusez-moi, qui est disponible sur la plateforme d'Arte. On y voit, s'animer des tableaux célèbres dans lesquels les personnages peints entrent en conversation. Et ici, ce sont Arlequin et Pierrot qui sont peints en 1924 par André Derain et que l'exposition donne à voir justement comme écho du Pierrot de Watteau. Écoutez.
Mais quoi ? T'en as pas marre de tenir la pose?
Général Bonnet, tu veux dire? Je sais pas pourquoi il nous a mis là, Derain. T'as déjà réussi à coincer une nana, toi?
Pff, à vrai dire, pas vraiment, là. En plus, j'ai une répute de crado et paresseux, faut pas se mentir, hein, ça attire pas des masses.
Ouais, tu m'étonnes.
Et tu sais, moi, dans la vie, en fait, je m'appelle Parlequin, mais Joaquin Salvado.
Oh, t'es de la famille d'Henri Salvado?
Mais non, Salvado, Joaquin Salvado. Je suis peintre et je viens d'Espagne.
Ah, je vois le genre. C'est la crise dans ton pays, alors tu viens bosser en France?
Mais non, je suis artiste peintre. Hein. Et puis, je connais plein de monde dans mon pays, en plus. Tiens, ce costume-là, tu sais qui me l'a prêté?
Oui.
Picasso.
Mytho.
Si, je te jure. Et alors, et c'est quoi ton vrai nom, déjà, toi?
Paul Guillaume. Je collectionne des tableaux, je fais des expos dans mon garage.
Ouais, c'est cool, j'adore le concept, c'est punk.
On n'est pas bien, tous les deux, là? Entre mecs...
Ouais, doucement mon gars, hein. On a peut-être été pas en 1924, mais il y a que les années qui sont folles, si tu vois ce que je veux dire.
Ça va pas, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai une nana, si tu veux tout savoir.
Ah oui, qui ça? Colombine, vous êtes toujours ensemble?
Ouais, bah ouais. Mais elle me gave, cette meuf, toujours à foutre de la javel sur mes fringues, soi-disant pour les désinfecter. J'ai l'air de quoi, moi, après, en costard blanc?
Mais t'as qu'à la lourder, ta blanchisseuse.
Du coup, je sais pas quoi faire.
Arlequin et Pierrot, dans le tableau de Derain, s'ils paraissent si bancals, c'est en fait qu'ils sont comme deux pantins désarticulés, manipulés par un marionnettiste invisible. En tout cas, Charlotte Guichard, ça donne à voir justement la manière dont les peintres ont vu Watteau, le Pierrot, et en ont, d'une certaine manière, poursuivi les métamorphoses.
Oui, c'est toujours incroyable lorsqu'on peut voir ce que des artistes pensent, des artistes qui les ont précédés ou les entendent, comme on a entendu Françoise Petrovitch. C'est ce regard plastique qui est fascinant. Et là, dans ce tableau de Derain, mais aussi dans les tableaux de Picasso, dont certains sont présentés au musée du Louvre, on voit à quel point la modernité, en fait, de cette plastique de Pierrot, qui s'impose, en fait, aux artistes à partir du 19e et du 20e siècle, et la manière dont voilà Pierrot est cet espace de projection en fait pour eux, un lieu, une forme où ils vont pouvoir tenir un discours sur leur art. C'est un espace de réflexivité, un espace de jeu aussi pour eux, où toujours sourd cette inquiétude, ce silence, cette question, cette énigme, voilà, qu'évoquait aussi Françoise Petrovitch. Et donc ce qui est formidable, c'est que c'est là qu'on voit est signée la modernité de Watteau, non pas parce que il était un moderne au XVIIIe siècle contre ceux qui reprenaient toujours l'antique, mais parce que il a inventé une forme plastique, cette blancheur, cette forme très simple,
la frontalité.
Il a tout d'un coup retourné ses figures, puisque dans tous ces tableaux, hein, les femmes et les hommes sont de dos ou sont en mouvement mais de dos, une autre énigme. Et donc tout d'un coup, voilà, il invente un personnage qui interroge, qui appelle le spectateur, la spectatrice, et qui ne peut pas laisser indifférent. Donc c'est ça qui signe la modernité là, plastique.
Et ça ne laisse pas indifférente non plus l'historienne du théâtre que vous êtes, Suzanne Rochefort, parce que vous avez vu l'exposition qui mène aussi notre regard jusqu'à différentes autres manières de dire ou de faire ou de jouer la comédie.
Oui, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est cette évolution qui va avoir lieu du personnage de Pierrot, qui reste au XVIIIe siècle associé à la gaieté, mais qui effectivement va devenir un lieu de projection pour le jeu, en devenant de plus en plus mélancolique, poétique ensuite au XIXe siècle. Et donc, effectivement, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Watteau, avec cette frontalité et avec ce personnage figé, tranche complètement avec les autres portraits qu'on a de Pierrot à la foire, où au contraire on le voyait extrêmement mobile. Donc là, Watteau innove beaucoup et paraît-il aurait eu ensuite une influence sur le jeu ensuite des autres.
Ah oui, vraiment.
Pour les autres acteurs qui jouent Watteau à partir donc du 19e siècle, le fait qu'il soit extrêmement figé et plus pensif et réflexif et non mobile comme on pouvait le voir sur les autres iconographies au 18e siècle aurait inspiré, en tout cas c'est une hypothèse souvent avancée, le jeu plus mélancolique, plus poétique du Pierrot qu'on va retrouver au 19e siècle quand le personnage se complexifie dans les spectacles.
Ah bah tiens, on a encore reçu une carte postale, dites donc, c'est celle de Mathieu Pot-Bonneville, évidemment, directeur du département culture et création du Centre Pompidou. Il nous dit qu'à la radio, il ne faut pas avoir peur du blanc.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, cette semaine, je vous propose une expérience sonore en deux étapes. Appelons-la la grande semaine du blanc. D'abord, imaginez que dès l'entame de mon propos, au moment où il s'agit de s'attacher l'attention des auditeurs, je m'interrompe brusquement et que je laisse ce qu'on appelle un blanc. Vous hausserez un sourcil surpris, de l'autre côté de la vitre du studio, votre réalisatrice relèvera brusquement la tête, quelque chose n'ira pas, contreviendra aux exigences du flux radiophonique, bref, manquera à sa place. Mais imaginez maintenant que, dans le fil d'un entretien, pressé par les questions de l'intervieweur, je décide de prendre mon temps, de glisser au seuil de mes réponses ces instants de silence, par quoi je signifie que mes paroles seront pesées et pensées. Imaginez que j'adopte en bref une prosodie mitterrandienne. Vous le sentez, mes silences alors ne marquent plus ce creux au bord duquel la signification vacille, mais cette surélévation sur laquelle un sujet entend se jucher pour plier le discours à son autorité. Ainsi, le blanc ménage-t-il dans l'ordre du langage comme un passage secret où s'aventurent en échangeant leurs masques la souveraineté et la disparition. Un rien de trop et la maîtrise y menace ruine, le pouvoir qui se tait et qui fait taire se révèle aphasique, le royaume s'avère un néant, comme dans ce jeu que les enfants appellent le roi du silence. Cela me rappelle qu'en 1993, l'artiste français Jean-Michel Alberola commença de peindre une toile dont la réalisation lui prit 10 ans, prenant en écharpe tout le cycle d'œuvres produites dans l'entretemps, une toile qui s'intitulait « Le roi de rien ». Sur cette toile, où seuls des fragments de corps surnagent comme naufragés d'une catastrophe de peinture, le blanc joue un rôle remarquable, un double rôle en réalité. À droite, c'est un blanc bleu piqueté de points jaunes, on dirait un manteau d'hermine jeté à l'épaule d'un prince. Mais dans le voisinage immédiat de ce blanc d'apparat, c'est une vaste tache blanche qui s'étend, dévorant le corps rose sur lequel elle s'écoule, privant l'œil de peinture et le portant à renoncer, un peu comme cette neige immaculée où s'égara un jour pour y mourir l'écrivain suisse Robert Walser, auquel Alberola consacra aussi une toile. Dans un précipité extraordinaire, le roi de rien porte à se demander si toute l'histoire de la peinture ne serait pas traversée par le battement entre ces deux états du blanc. Entre la robe du Christ sur la montagne, son vêtement devint d'une éclatante blancheur, évangile de Luc, et la pâleur de son corps nu à la descente de croix dans cet intervalle où il n'est ni vivant ni ressuscité. À l'autre bout de l'histoire, c'est par exemple l'immense robe de la mariée de Niki de Saint-Phalle, vortex immaculé où s'engloutissent d'innombrables signes de la domination masculine et carcan dont n'émerge qu'un visage triste à qui cette prison glorieuse interdit tout mouvement. La mariée, une reine de rien en somme. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, l'année précédant le roi de rien, Alberola peignit une œuvre sur papier intitulée « Le clown ». À larges aplats de gouache blanche, une silhouette s'y esquisse, tunique boutonnée, collerette, bras ballants. Allez y voir, Patrick, et emmenez vos invités spécialistes du Pierrot de Watteau. Elle devrait leur rappeler quelqu'un.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Évidemment, il a quelque chose dans le ventre. Mais ce n'est pas un mime.
Hein, qu'est-ce que c'est alors ?
Un acteur.
Oui, ben merci du conseil, Mathieu. Effectivement, le clown de Jean-Michel Alberola, vous pouvez aller le voir, en effet, au Louvre, dans l'exposition « Revoir Watteau ». Le peintre Alberola disait d'ailleurs de lui, de ce clown, de ce personnage au regard ébahi qui, de tout son corps, masque le spectacle, se dégage une impression de latence, quelque chose qui laisse présager un danger. D'une certaine manière, c'est ce qui flotte, ce qui rôde autour de notre conversation. Il y a un danger. Alors, il y avait un danger immédiat, vous l'avez décrit, Suzanne Rochefort, qui était celui de la concurrence des théâtres en 1719. Puis, il y a un danger qui est peut-être inhérent à la profession de comédien, et, ou le danger théâtral tout court, non ?
Oui, oui, je pense que ce qu'il y a peut-être également, ce qu'on pourrait y voir, c'est le danger qu'ont les comédiens face au public. Finalement, en faisant coexister deux mondes sur ce tableau-là, on fait aussi coexister peut-être différents types de publics, différents types d'interprétations possibles. Et on sait que c'était un enjeu très fort au XVIIIe siècle, ce rapport au public qui invectivait, qui prenait la parole, qui pouvait au contraire menacer, demander de refaire des strophes, de refaire des passages et parfois être plutôt violent face aux acteurs. Donc il y a tout un danger effectivement qui peut exister dans le spectacle même et qui d'une certaine manière peut se retrouver, ou en tout cas une incertitude première qui peut se retrouver aussi quand on regarde ce tableau énigmatique.
Finalement. Et ce danger, cette intranquillité, Charlotte Guichard, vous voyez, et on la voit mieux d'ailleurs après avoir vu la manière dont les peintres modernes l'ont regardé, vous la voyez chez Watteau comme finalement une manière de justement de faire vaciller la notion même d'identité. Identité sociale, identité sexuelle, toutes les identités, au fond, c'est une valse triste et mélancolique, des fêtes galantes, mais qui sont très peu joyeuses, en fait.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, Watteau ouvre un espace des possibles. Il ouvre quelque chose, une sorte de zone inconnue, en fait, qui est qu'est-ce que l'identité, l'identité personnelle, qu'est-ce que le sujet, qu'est-ce que l'intériorité, est-ce que nous ne sommes que surface et apparence, que se cache derrière ce masque, ce phare. Et cette question-là, elle est aussi très contemporaine de Watteau, oui. Hein, je le disais, et elle est exprimée dans le monde du théâtre. Donc par-delà le motif iconographique de Watteau, en fait, il y a une inquiétude sur ce que nous sommes qui porte cette société et dans laquelle sans doute les artistes ensuite se sont reconnus. Question sur les identités de genre. On a l'exposition montre hein, cette fluidité hein, de genre aussi lorsque des femmes qui endossent le costume de Pierrot. Identité sociale, incertaine. Et donc au-delà même du monde de l'art, que ce soit celui du théâtre ou des peintres, parce que Watteau est aussi un peintre des marges. Hein. Mmh. Il vient d'abord de Valenciennes, où il a peint les fatigues de la guerre, comme disait Arlette Farge. Il a travaillé sur le pont Notre-Dame, à la foire, donc il vient des marges, et il arrive au cœur du capitalisme commercial parisien, mais il a gardé avec lui cette question-là qui le hante, hein, sur les identités et la valeur intrinsèque de l'art, en fait.
Leave me dreaming on the bed. See you right back here tomorrow. For the next round, keep this scene inside your head as the bruises turn to yellow, the swelling goes down, and if you're ever around in the city or the suburbs of this town, be sure to come around. Seen you act so shallow or look so brown. Remember all the things you'd say, how your promises rang hollow as you threw me to the ground. And if you're ever around in the back streets or the alleys of this town, be sure to come.
C'est vraiment bien. Placebo, 2006. Pierrot the Clown. On parle de Pierrot de Watteau, Pierrot le Flou, comme l'appelle Philippe Lançon dans Libération. Et dans l'exposition du Louvre que vous pouvez voir jusqu'au 3 février, justement, on voit l'écho jusqu'à aujourd'hui de cette figure. Éléonore Chaline, bonjour.
Bonjour.
Vous voulez nous parler de Nadar, c'est ça?
Je vais vous parler de Nadar.
Ouais.
Dans le prolongement de cette discussion d'aujourd'hui, donc sur Pierrot dit le Gilles, je voulais vous parler de deux séries de photographies faites par la famille Nadar à plusieurs décennies d'intervalle. La première, donc autour du mime de bureau, habillé en Pierrot, et photographié, faisant mine de photographier en 1854-1855 par Adrien Tournachon, dit Nadar Jeune, le frère de Félix Tournachon, dit Nadar,
tout court, ouais.
Et une série de photographies autour de Sarah Bernhardt, photographiée en Pierrot par Paul Nadar, donc au début des années 1880. Paul Nadar, le fils de Félix. Donc c'est à la fois une histoire de famille, une histoire de comédien, de comédienne, photographiée en costume de Pierrot. Donc il sera question de portraits et de masques, de têtes d'expression et de mimiques, et d'un art muet, la photographie, qui contemple un autre art muet, la pantomime.
Et on est bien d'accord que le mime de bureau dont il est question, c'est celui dont on parlait avec les enfants du paradis.
C'est son fils.
Ah, c'est son fils, pardon. Ah,
bah, y a des autre histoire de famille.
De fils, d'accord. Alors, on y va.
Ces photographies, elles sont, je crois, parmi les plus célèbres des Nadar. Les photographies du mime de bureau donc, sont celles qui figurent en couverture d'une grande exposition qui s'appelait donc Nadar, les années créatrices, 1854-1860, qui était une exposition qui s'était tenue au musée d'Orsay, puis au Metropolitan Museum à New York, donc au milieu des années 1990. Et 25 ans plus tard, donc en 2018, la photographie qui est choisie pour figurer sur la couverture du catalogue de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, Les Nadar, une légende photographique, eh bien c'est celle de Sarah Bernhardt en Pierrot.
Et ça, pour vous, ça exprime un glissement, en fait. Hein,
oui,
c'est ça,
ouais. Voilà. Pour moi, ça dit quelque chose de la manière de voir Nadar et de raconter l'histoire de la photographie. Donc, l'exposition des années 1990, elle se concentre sur ces années les plus fastes, sur les années les plus créatrices, qui sont jugées comme les meilleures années de Nadar. La suite est jugée comme moins intéressante, comme plus commerciale. Et puis, l'autre exposition, celle de 2018, elle veut montrer, au contraire, toute l'histoire des Nadar. Donc, celle des deux frères, celle du père et du fils, puis celle du fils, donc Paul, et de sa fille, Marthe. Et elle nous dit finalement de ne pas nous concentrer uniquement sur ses photographies les plus connues, ni sur ses années du début de la carrière de Nadar, donc ces années où il photographie la bohème parisienne, où il fait ses grands portraits, mais de regarder la photographie sur le temps long, et de la regarder aussi un peu différemment.
Donc, Charles de Bureau, le fils, hein, ça y est, j'ai compris, le fils du célèbre mime, lui, il est, c'est le Pierrot qui est photographié par, par un Nadar.
Par un Nadar.
Un des Nadar.
Donc, cette photographie du Pierrot photographe, elle appartient à une série d'une quinzaine, donc de 15 photographies d'un célèbre mime, qui est donc le mime Charles de Bureau, qui est le fils d'un grand mime qui œuvrait au théâtre des Funambules, qui était mentionné tout à l'heure, dans le rôle de Pierrot. Un rôle qu'il avait transformé, donc que son père avait transformé, hein, en changeant le costume de Pierrot, en lui enlevant sa collerette, en lui enlevant le chapeau. Et toute la bohème parisienne romantique des années 1840 vient le voir, vient observer ce mime. On s'y presse et il en vient finalement à incarner, et c'était déjà le cas au XVIIIe siècle, hein, mais à représenter une figure de l'artiste qui souffre, de l'artiste romantique. Et pour Baudelaire, c'est de Bureau, c'est le mime de l'histoire moderne, en fait. Mmh. Et son fils reprend le flambeau et, à l'invitation de Nadar, donc de Nadar, vient faire la publicité pour l'atelier du frère, qui est un petit peu en difficulté à ce moment-là. Atelier du frère qui s'appelle Tournachon, Nadar Jeune et compagnie, donc qui se trouve boulevard des Capucines. Ces photographies, elles vont être montrées en 1855 à l'exposition universelle. Elles sont un grand succès et elles sont une des causes, en fait, de la brouille et du procès entre les deux frères Nadar. Ce mime de bureau, fils, donc encore une histoire de famille, apparaît sur 15 photographies réalisées par Adrien Tournachon et non pas, comme on l'a longtemps dit, par Félix Nadar ou par Félix Nadar et Adrien Tournachon. Ce mime apparaît en pied, sauf sur une image, habillé en Pierrot, le visage blanchi. Ce sont des photographies de grand format pour les années 1850, un peu moins d'une trentaine de centimètres par une vingtaine de centimètres. Et ces tirages sont dans des tons de brun chaud. Et encore une fois, il y a une histoire de blanc. La beauté de ces images qui sont réalisées en extérieur pour les besoins de lumière de la photographie dans ces années provient du contraste entre la silhouette blanche du comédien et puis un arrière-plan plus sombre sur qui se détache d'un tissu. Et le corps du mime, très longiligne, flotte un peu dans cet espace. Ces images, d'ailleurs, elles ne sont pas à proprement parler des portraits. Elles sont des têtes d'expression. Ça renvoie au vocabulaire artistique. Mais ça dit aussi cette idée de représenter les émotions par la photographie. Longtemps, les historiens de la photographie ont voulu croire que c'était Félix Nadar qui avait fait ces images. Ouais. C'était lui le génie de la famille. Et en fait, c'était donc son frère. 30 ans plus tard, dans les années 1880, donc Paul Nadar photographie Sarah Bernhardt, déjà célèbre en Pierrot. Son père l'avait photographiée quand elle était très jeune, à 20 ans, en 1864. Paul Nadar, lui, était un passionné de théâtre, photographié beaucoup d'actrices. Et il essaye de, j'imagine, dans cette image, de rivaliser aussi avec l'histoire de sa propre famille. Cette fois, on est sur une photographie qui est sur un fond gris pommelé. Sarah Bernhardt a repris le costume de Pierrot avec la collerette et le chapeau. C'est une très belle photographie. Et Paul Nadar, se mesure à son oncle et à son père.
Vous l'avez vu, Suzanne Rochefort, dans l'exposition, c'est une très belle photographie. Sarah Bernhardt en Pierrot, d'une certaine manière, c'est presque l'achèvement pas tout à fait d'ailleurs, de l'histoire qu'on a racontée du point de vue du jeu théâtral.
Oui, effectivement, je pense que c'est la manière finalement d'avoir un personnage complet du Pierrot, c'est-à-dire de son expression la plus simple qu'on avait au départ, mais où il y avait déjà finalement cette dimension extrêmement importante de gestes et de mimes, puisque là-bas c'est quand même bien un personnage de la Commedia dell'arte, donc qui était interprété finalement par des personnes qui étaient habituées à faire énormément de gestes, et donc on a finalement comme une boucle bouclée à la fin avec cette expression.
Oui, parce que photographier un mime, d'une certaine manière, et Honor Schalin, c'est vraiment un paradoxe.
C'est un paradoxe, et c'est ce que je me disais en réfléchissant à ces images. C'est une conversation doublement silencieuse, muette, où l'expression doit surgir, rester visible à la surface du visage et à celle de l'image. Et d'une manière générale, ces images, elles posent la question de la manière dont la photographie peut traduire, enregistrer les émotions, qu'elles soient naturelles ou jouées, naturelles ou factices, les laisser voir. Ça rejoue un certain nombre de questions qui vont se poser autour du portrait photographique, de la question de la ressemblance, extérieure ou intime, et donc de la représentation du portrait, enfin de ce qu'on va appeler le portrait psychologique.
Oui.
Et on dit que c'est Nadar, qui l'incarne, en fait, par ses photographies.
Alors, on écoutait tout à l'heure un extrait des Enfants du Paradis avec le mime Desbureaux. On était en 1945. Deux ans plus tard, 1947, Marcel Marceau, le mime Marceau, invente son personnage, Bip.
À l'origine, j'ai créé un personnage qui s'appelle Bip et qui, si vous voulez, qui a été influencé par Pierrot, bien entendu, puisqu'il a le visage blanc. D'ailleurs, vous avez des gravures... des photos, pas encore des gravures, mais des photos de Bip dans ses sketchs. Alors vous avez différentes attitudes du personnage de Bip, Bip Apache, ou Bip dans une soirée mondaine, Bip jouant David et Goliath, Bip et le fabricant de masques, qui étaient, au fond, comme il y avait Pierrot orfèvre, Pierrot menuisier, comme il y a eu Charlot Patine, Charlot banquier, n'est-ce pas ? Et il y a toujours cet amour de l'homme pour le métier, parce que c'est par le métier que l'homme révèle la satire, se révèle à lui-même, et est vraiment le témoin silencieux de son temps. Partant de ce personnage solitaire, qui crée un monde invisible, qu'il rend visible, peuplé d'objets imaginaires, peuplé de personnages, luttant avec les éléments, luttant avec le monde, si vous voulez, j'ai essayé de créer également une troupe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, une troupe avec des décors, des costumes, de la musique, et ce sont les mimodrames. Il est certain que le mime est également un art poétique qui suscite l'imagination du public, qui crée le mythe. Le mythe, c'est ce recherche constant que nous avons d'agrandir le fait réel et d'en faire une espèce de légende.
Bien sûr que ça, on va jusque-là, on va jusqu'à voilà, l'insondable tristesse, solitude du mime Marceau en l'occurrence, en regardant Pierrot, dit le Gilles, de Watteau. Mais Marceau nous le dit, les vies théâtrales dont vous êtes l'historienne, Suzanne Rochefort, pour le XVIIIe siècle, c'est le titre de votre livre, c'est des vies de troupes, c'est aussi des portraits collectifs. Et donc là, il y a quelques paradoxes quand même à parler de la vie de comédien, de la vie théâtrale, face à cette solitude un peu désolée du Pierrot, parce que normalement ça se passe pas comme ça quand même, rassurez-nous.
Oui, effectivement, bien sûr, et c'est ce qui est passionnant avec Watteau, c'est que c'est finalement un des premiers peintres des troupes, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il peint finalement des troupes fictives, hein, puisque là, ce qu'on voit devant nos yeux, vers 1719, ce sont donc des personnes qui n'ont pas pu être sur la même scène ensemble, et d'autres tableaux qu'il peint sur les comédiens français représentent une troupe qui semble être la vraie troupe de la Comédie française, mais en réalité, ce sont des tragédiens, mais on ne parvient pas à identifier à quelle tragédie il fait référence. Oui. Donc finalement, il fait effectivement allusion à cette troupe de la Comédie française qui existe bien entre sociétaires, où il y a bien évidemment à la fois des problèmes et une cohésion aussi interne très forte. Et donc voilà, il joue tout le temps sur cette dimension de réalité et de fiction à la fois. C'est vraisemblable, mais quand on décrypte bien, il y a beaucoup plus de choses et de niveaux de lecture finalement à dire sur cette question de la troupe chez Watteau.
Et sont exposés effectivement dans ce revoir Watteau qui est donné au Louvre, Charlotte Guichard, d'autres tableaux, d'autres dessins, d'ailleurs d'une virtuosité technique éblouissante. On voit aussi le théâtre de Tréteau, on voit les Italiens de Watteau, qui montrent quand même, oui, cette proximité avec la vie sociale, pas simplement le problème existentiel que pose le jeu, mais la vie sociale des théâtres à Paris.
Oui, en fait, Watteau nous parle de la société, de la Régence. Il nous parle du monde du théâtre. Certainement, il nous parle de la foire Saint-Germain, qui n'était pas juste un monde de théâtre, mais qui était aussi un monde marchand. Hein. La foire, c'est là où on vend, où on achète, où c'est le lieu de transaction. Ce tableau, c'est aussi un lieu qui parle de transactions marchandes, de transactions sociales. Et Watteau, finalement, dans ce tableau comme dans les autres, en fait, il arrive à être le contemporain en fait de son temps, c'est-à-dire qu'avec ce décalage poétique qui le caractérise, il arrive à exprimer sans vouloir être pour autant documentaire ce qui traverse son époque. Donc une plus grande fluidité sociale, une ouverture sur le monde, un goût pour le luxe, pour les beaux textiles, pour le jeu. Et donc c'est là où Watteau est à la fois contemporain de son temps, et très moderne, parce que c'est sans doute un des peintres du 18e, un des tableaux qui a été le plus regardé hein, par les modernes, par les avant-gardes.
Et puis qui nous saisit quand même, il faut le dire. Hein, quel est l'intérêt d'aller au musée, hein, de prendre la proportion des grandeurs? C'est un grand tableau, on a commencé par là, il faudrait peut-être terminer par là, ça nous saisit. C'est vraiment, on est quand même happé, Éléonore, par cette... alors évidemment, avec la photographie, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais par cette stature et cette absence en même temps.
Oui, la position de son corps, ce premier plan extrêmement présent, le décor qui reste assez énigmatique, ces personnages un peu en contrebas, c'est un tableau qui pose beaucoup de questions aux regardeurs et qui, je pense aussi par sa taille, happe à l'intérieur.
En un mot, pour terminer, Suzanne, qu'est-ce qui se joue vraiment, Suzanne Rochefort ?
Eh ben, je crois que ce tableau impressionne et il impressionne aussi par la manière totale dont il envisage le spectacle, à la fois dans sa dimension esthétique, matérielle, mais aussi sociale et voire politique, avec certaines dimensions subversives voilées qu'on peut lire hein, avec ce personnage forain qui est voué à se taire en raison de procès menés.
Un comédien sans réplique, donc c'est le titre du livre de Guillaume Farou qui accompagne l'exposition. Un comédien sans réplique, mais qui précipite aussi du discours, Charlotte Guichard.
Oui, il ne cesse de nous interroger et nous n'avons de cesse de vouloir lui répondre, même si nous n'avons pas forcément de réponse à lui donner. Donc oui, il ouvre à l'espace, en fait, de l'interprétation. Et c'est ça qui fait le fait qu'il nous accompagne aussi aujourd'hui.
Eh bien, merci à toutes. Merci Suzanne Rochefort, merci Charlotte Guichard, merci Éléonore Chaline. Cette émission a été préparée par Aline Biette, Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à qui on souhaite un prompt rétablissement, à la prise de son d'Aliya et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.